Là, maintenant, je vais essayer de faire le pont entre le premier atelier d'hier après-midi et l'atelier d'aujourd'hui. Bon. Alors, celui d'aujourd'hui s'appelle « S'approprier l'Europe en construisant un savoir géographique ». Quel est finalement le postulat ? C'est que nous avons là des enseignants qui ne se disent pas a priori et dès le départ, je vais construire une conscience européenne. Ils essaient d'enseigner quelque chose sur un objet historique, géographique, excusez-moi, je deviens malade si je parle d'histoire. Bon, un objet géographique qui s'appelle l'Europe. Et ils se disent, finalement, pour construire cet objet géographique, j'ai besoin de construire des notions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un objet sans construire les notions opératoires pour penser cet objet. Et d'ailleurs, ce qui m'avait intéressé et quasiment sidéré, c'est que évidemment ils font fort, puisque Gaëlle et Sandrine s'attaquent à la notion de réseau, et que Catherine et Jean-François s'intéressent au territoire. Et qui plus est, à comment définit-on un territoire. Bien. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'ils sont, à mon avis, dans une problématique de l'innovation. C'est-à-dire que ce sont des initiatives qui sont des initiatives personnelles, ce n'est pas une commande de l'INRP, ce n'est pas une recherche-action. Ce sont deux équipes, et c'est important que ce soit deux équipes, qui essaient de mettre en œuvre un objectif didactique, comme ils peuvent au départ, avec les élèves qu'ils ont, ce qui a été dit hier, et ce n'est qu'ensuite, au bout d'un certain nombre d'élaborations, qu'il y a un regard réflexif, et ils essaient de faire le point sur ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment, etc. La deuxième chose, c'est que apparemment, ce sont des gens qui ne sont pas dans la révolution pédagogique, ni dans la révolution de la forme scolaire. Ils enseignent dans des conditions dites normales, horaire normal, dotation normale, et mise en œuvre du programme. Mais, comme par hasard, dès qu'il y a un interstice dans le programme, dès qu'il y a un degré de liberté, disons, ils s'y introduisent pour vraiment défendre ce qui leur paraît essentiel. Notamment, par exemple, le fait que des élèves de CM2 et de 4e sont capables de construire, modestement, progressivement, des notions. Que nous ne sommes pas dans une pédagogie où on enseigne, on balance, on fait passer des repères géographiques qu'on apprend. Et enfin, quand on arrivera à partir de la seconde, on fera les choses sérieuses, on réfléchira. Je crois que c'est ce qui est commun. Bon, la dernière chose, je ne connais rien à l'école primaire. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis les pieds dans un collège. Mais ce qui me paraît rassembler aussi bien les équipes d'hier que les équipes d'aujourd'hui, c'est qu'ils construisent des dispositifs pédagogiques qui fait que les élèves jouent le jeu. C'est-à-dire qu'ils veulent bien essayer de découvrir l'Europe, de construire des notions. Et comme par hasard, ce sont des dispositifs où ils ont une marge d'autonomie, où leur parole est prise au sérieux, au sérieux, et où les enseignants n'essaient pas de naturaliser, de banaliser la réalité. Ils essaient de les mettre dans un rapport au monde, mais un monde complexe quand même. Ce n'est pas parce que c'est scolaire que l'on va éliminer toutes les aspérités, toutes les difficultés. Bon, maintenant j'ai plus rien à dire à ce niveau-là, donc je vais. Alors je ne sais pas comment vous allez. Oui, voilà. Tu n'étais pas installé, je commençais à m'inquiéter. Donc je vais laisser Roselyne et Nicole à rendre, comme elles le peuvent, du mieux qu'elles peuvent, donc le travail qui a été fait par Gaëlle et Sandrine, donc qui sont de l'UFM de Beauvais, hein, toujours, enfin, de l'antenne de l'UFM d'Amiens, 6 à Beauvais. Voilà.
Alors effectivement, nous nous trouvons là dans une position un petit peu difficile. Moi en particulier, puisque je ne suis pas géographe, vous avez dû l'observer, je ne suis pas professeur des écoles, je n'ai pas assisté à l'expérimentation, je n'ai pas observé ce qui s'était passé dans la classe, et donc je suis vraiment plus encore que dans les expériences montrées hier, dans une totale reconstruction. Mais finalement, comme je suis un petit peu historienne, je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, parce que ce qui comptait pour nous dans ces journées d'études, ce n'était pas la réalité de ce qui s'est passé, mais peut-être le regard que nous portons sur ces expériences, et après tout la reconstruction que j'en fais, c'est jamais qu'une reconstruction parmi d'autres. Alors, il y a une question que je m'étais posée, puisque nous n'ayons pas réussi à joindre Sandrine Pillon, qui est l'institutrice, enfin la professeure des écoles qui a effectué cette expérience. Nous nous sommes beaucoup posé de questions autour de l'intentionnalité didactique qu'elle avait lorsqu'elle a mis en place cette séquence avec ses élèves. Et finalement, il est très difficile de reconstituer le fil. Tous les gens qui ont fait des expérimentations dans leur classe savent très bien que ce sont des processus qui sont souvent très longs, avec des idées qui s'enchaînent les unes les autres, et qu'il est difficile souvent de retrouver la logique. Finalement, je me suis donc livrée à un tout petit exercice en introduction avant de vous projeter le PowerPoint, qui a été de revisiter, j'ai fait vraiment un travail d'historien, j'ai revisité toute la pile des notes de réunion de travail depuis décembre 2006, et j'ai essayé de repérer quels étaient les discours, quelles étaient les choses dites, et en particulier ce qui m'a intéressée, c'est la proximité dans les discussions de l'expérimentation avec d'autres discours. En particulier, deux faits. Le premier, c'est que à chaque fois que Sandrine Pillon et Gaëlle Marion Saucé présentaient cette expérience, c'était toujours dans une espèce de décalage, et ce qu'a dit ce matin Christian Grataloup m'y a fait penser, c'était toujours dans une espèce d'opposition entre une expérience qui s'appuyait sur le puzzle et l'idée qu'il fallait sortir du puzzle pour peut-être quelque part parcourir un espace. En effet, à chaque fois dans les réunions, il y avait d'abord l'exposé d'une expérience très intéressante que malheureusement nous ne pouvons pas vous présenter, où les élèves étaient amenés à travailler sur une carte de l'Europe découpée sous forme de puzzle, et où les élèves avaient à argumenter, à discuter entre eux pour essayer de découvrir au fond quel était le pays concerné. Et à chaque fois, la discussion portait sur le fait qu'elles sentaient bien, toutes les deux, que l'obstacle majeur que rencontraient les élèves dans ce type d'exercice, c'est de faire apparaître les pays comme des isolats, comme des îles non reliées au reste, et que quelque part, ça signifiait varier au maximum les approches, les documents, pour sortir de cette vision finalement réductrice. Donc, c'est dans cet esprit, je pense, que petit à petit, l'idée de travailler sur quelque chose qui relie a émergé. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un deuxième temps fort dans les discussions de l'équipe, et là en particulier je crois que c'était lié à une période où Roselyne Le Bourgeois et Daniel Badia ont fait une communication dans des journées d'études, et où il y a eu beaucoup d'interrogations sur finalement la difficulté qu'il y a pour des élèves de l'école élémentaire, en tous les cas c'est moi ce que j'en ai compris, à travailler sur des cartes. Tu avais dit dans ta communication, on avait fait un travail sur une carte énigmatique, et moi je me disais, mais toute carte pour un enfant jeune est énigmatique, puisque par définition la carte sélectionne un élément en niant tout le reste, et pour, par exemple, je pense à un travail qu'ils avaient fait sur une carte de population matérialisée par des points, mais il est évident que du coup les structures politiques ou les contraintes de relief disparaissent. Et donc toujours cette idée que il faut aborder la complexité, mais que finalement cette complexité, on l'aborde avec des documents qui à chaque fois tronçonnent le réel. Quand on est face à des photographies, on a l'illusion d'être devant le réel, mais en réalité, on sait bien que c'est une illusion. Et dans le fil de la réflexion didactique menée par cette équipe, émergeait de plus en plus nettement l'idée qu'il fallait peut-être travailler sur ce lien. Et moi, c'est finalement en introduction ce que j'avais envie de dire, c'est que j'ai l'impression que la logique de leur réflexion didactique a été vraiment de se dire, mais au fond, comment faire pour que des enfants fasse du lien, relie, c'est-à-dire finalement pour que cet espace, il se l'approprie, pas en le parcourant matériellement, mais en se l'appropriant à partir d'exercices scolaires, d'où cette idée, effectivement, de parcourir, hein, vous verrez la consigne tout à l'heure, et là je vais lancer donc le PowerPoint. Alors j'ai demandé bien évidemment à Roselyne de venir en soutien, puisque... les discussions qu'il y a eu dans l'équipe font qu'elle a sûrement une meilleure connaissance que moi de la réalité d'un certain nombre d'étapes. Donc, cette première diapositive était destinée à montrer un petit peu le contexte dans lequel toute la progression, hein, parce que évidemment cette séquence s'inscrit dans une progression. Donc, comme on a eu l'occasion de le dire hier, c'est vrai que l'exercice qui consiste à décrire une expérience a toujours un côté réducteur, puisque on met le phare sur un élément que l'on veut transmettre, faisant un peu ou donnant l'illusion que on a oublié par ailleurs de travailler sur le paysage, etc. Là, ça n'est pas le cas. Donc, vous voyez que dans une première séance, il y avait eu tout un travail sur les limites de l'Europe, également sur l'étude de paysage, et puis c'est autour de avril-mai 2007 qu'est arrivée cette idée d'une Europe qui est divisée en États, mais qui en même temps est présentée dans les documents en classe comme une Europe structurée par des villes en réseau. Donc vous voyez, c'est dans cette dialogique que la collègue se trouvait à ce moment-là. Alors, elle a indiqué dans son PowerPoint, bon, là je passerai assez rapidement, mais c'est une connaissance du contexte, un certain nombre de repères géographiques qu'elle avait travaillé. D'ailleurs, les 2-3 diapositives qui viennent sont extraites carrément. C'est vraiment le programme tel qu'il est présenté dans les textes officiels. Alors, le point fort qui avait été repéré, c'est que effectivement cette diversité permet de mettre en évidence tout un certain nombre d'inégalités, d'hétérogénéité dans l'Europe, et petit à petit chemine l'idée que cet espace finalement hétérogène, il est structuré, et en particulier il est structuré, en particulier par un système urbain, par un réseau de villes. Petit rappel, là aussi c'est extrait des instructions officielles, simplement la collègue a indiqué en gras quelles étaient les notions particulières qui avaient été travaillées, et j'insiste juste sur un point, c'est celui qui m'avait amené à ce petit travail de reconstruction historique, c'est l'idée de réseau. Alors, réseau de communication, mais il y avait quand même le terme réseau, puisque une de nos hypothèses était que les collègues soient peut-être dans une perspective applicationniste, c'est-à-dire qu'il y ait eu en amont un travail sur la notion, par exemple, de réseau, suggéré par la professeure qui travaille avec elle et qui est à l'UFM, donc Damien, et qu'au fond, la séquence ait été une simple application de quelque chose qui aurait été étudié en amont. Mais finalement, j'ai écarté cette hypothèse. Voilà, lors des 2 séquences précédentes, les élèves ont acquis un certain nombre de connaissances sur les frontières maritimes et terrestres, les grandes agglomérations, les espaces maritimes et montagnards et les grands fleuves. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on y a fait une allusion hier, hein, le modèle des bases qui a été développé par Nicole Lottier, parce qu'elle l'a rencontré dans les très nombreux entretiens qu'elle a menés avec des enseignants, c'était d'histoire, mais le problème est exactement le même entre 85 et 95, apparaît comme évident ici, c'est-à-dire que même quand on est dans des situations qui apparaissent comme relativement innovantes, l'idée qu'on ne peut pas démarrer sans avoir des petites briques sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir réfléchir est très nette. Alors voilà le problème, sorte de petite situation problématique. Aujourd'hui, nous aimerions savoir comment nous pourrions nous déplacer en Europe et avec quels moyens. Donc il y a dévolution du problème aux élèves. Donc comme tu le disais, la parole, l'inventivité est tout à fait reconnue. Alors c'est peut-être là que je vais avoir besoin d'indications. Donc c'était des documents donnés en aide.
Oui, c'était des documents qui étaient donnés parce que en fait on s'est aperçu, ça peut paraître tout à fait basique, mais que les enfants ne connaissent pas un certain nombre de moyens de transport, même la péniche, pourtant on est dans l'Oise, mais on est dans une partie de l'Oise qui n'a pas de transport en péniche. Donc les cargos conteneurs, évidemment, c'est difficile. Donc il y a un certain nombre de choses. C'était des photos pour que les élèves visualisent ces modes de transport qui sont simplement indiqués sur les cartes ou qu'on nomme, mais qu'on ne voit jamais. Et puis, en effet, il y avait ce numéro de Mon Quotidien, numéro hors série, comme la revue Mon Quotidien en édite, qui venait de sortir, donc ils avaient aussi à disposition.
Voilà. Alors, le dispositif consiste à fournir aux élèves une carte vierge, format A3, donc vous allez avoir des exemplaires dès que nous aurons fini la présentation du dispositif, avec les grandes agglomérations, quelques éléments de relief, les fleuves, alors les lacs qui parfois apparaissaient comme tellement importants, c'était un problème de reproduction de documents, oui, donc c'est apparu un peu comme des obstacles pour certains élèves, et l'idée était la suivante, donc rechercher les tracés possibles pour se rendre d'une ville à une autre, en essayant donc d'organiser au fond cet espace. Alors, comme évidemment dans ce type de séquence, il est difficile de faire travailler tout le monde en même temps, un demi-groupe, la moitié de la classe, a eu l'occasion d'aller sur Internet, et l'idée du dispositif, c'était d'être complémentaire, c'est-à-dire que ceux qui allaient sur Internet faisaient des recherches pour essayer de trouver des informations, des questions permettant d'aider ceux qui travaillaient sur les cartes. Et là, je crois qu'il y a eu un petit...
Oui, en fait, je ne sais même pas si c'était... Je n'affirmerai pas, c'est une hypothèse, que c'était pour aider. Moi, je me demande si, justement, c'était pas d'un côté les hypothèses qu'on peut faire, c'est-à-dire possible, et puis d'un autre côté, rechercher un itinéraire existant sur Internet. Et l'itinéraire Paris-Prague. Ce qui, d'ailleurs, a causé... C'était une impasse. On va voir que les élèves, en fait, n'ont jamais trouvé l'itinéraire Paris-Prague.
Alors, oui, je reviens en arrière. Alors, oui, en fait, parce qu'on ne va pas passer la fin du diaporama qui ne présente pas d'intérêt dans la mesure où vous allez avoir les documents et ce sera plus intéressant de discuter sur eux, c'est qu'en réalité, effectivement, là, il aurait fallu que les élèves aient l'idée de scinder le voyage en Paris-Berlin,
ou Francfort. Et en fait, Paris-Prague, ils n'ont pas...
Berlin, excusez-moi.
Où les cartes étaient... Les cartes qu'ils ont sorties, d'ailleurs, on les a, hein. Il me semble, je pense. Et non, ce sont d'autres. Hein. On voit les tirages Internet qu'ils ont faits et les cartes, c'est un problème d'échelle, elles sont toujours cadrées, trop serrées. Donc, en fait, ils n'ont jamais et Paris et Prague. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à recoller les morceaux pour faire le trajet.
Alors, en fait, la fin du diaporama, ce sont les hypothèses et les conclusions de la collègue, mais il nous a semblé que c'était beaucoup plus intéressant, finalement, de vous confronter à ces documents pour que vous en voyiez la richesse et que nous voyions, justement, la notion de réseau telle qu'elle peut émerger chez des élèves qui, finalement, en bricolant, sont amenés à se poser des questions sur la structuration de cet espace urbain.
En fait, les élèves ont travaillé en groupe, hein, donc on a les productions des différents groupes.
Deux questions pratiques. La première, sur Internet, ils ne trouvent pas, hein, etc. Mais je suis un peu étonné parce que c'était une question de fonctionnement. On n'a pas eu l'idée de leur indiquer qu'il existait via Michelin.
Non, mais je pense que, Daniel répondrait peut-être mieux que moi. Je pense que quand ils sont partis chercher sur Internet, ils n'étaient pas dans la même salle. Ils changent, en fait, dans l'école, hein, il y a vraiment une salle polyvalente dans laquelle se trouvent les ordinateurs. Et donc, ils ont été véritablement en autonomie. Hein. Et c'est des choses, je pense, qui ont été retravaillées par la suite, mais ils sont revenus dans la classe. En tout cas, je pense que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ils sont revenus avec ce qu'ils avaient tiré. Et puis, ça a été support de discussion, puis repris après.
L'obstacle a servi à avancer. D'accord. Parce que spontanément, oui, j'aurais des élèves de 6e, je leur dirais, pour faire un itinéraire, vous, oui, allez sur Via Michelin et vous aurez la carte à petite échelle, Paris-Prague. Et puis après, vous ferez des zooms, éventuellement.
Mais en même temps, peut-être que justement cet échec sans donner la solution, ça a créé quelque chose. Bon, après, oui, si vraiment ils avaient besoin d'itinéraire, faudrait en effet.
Et puis alors, après, au fond, et je reprends autrement ce que disait Jackie tout à l'heure, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est un itinéraire, c'est un trajet. Et ils se voient agissant sur ce trajet, enfin, passant, marchant, en voiture, etc. Alors, on passe sur plusieurs notions. Il y a le trajet, puis tout à l'heure est venue la liaison. Il y en a un qui dit c'est pas, il y a peut-être, mais c'est pas une liaison. Et puis après, l'infrastructure, ce qui est autre chose. Puis après, l'axe, qui est beaucoup plus abstrait encore. Et puis, de tout ça, comment va-t-on passer à l'idée de réseau? Et alors, plus amusant, c'est que celui qu'ils ont viré, c'était celui qui, vu de l'extérieur, et pour nous, là, maintenant, donnait plus l'impression de réseau. Et alors, je suis un peu étonné, pour terminer, d'une règle du jeu qui apparaît seulement au moment de la discussion et de l'évaluation. Mais ça, c'est le fonctionnement.
Je suis pas sûr, en fait, qu'elle est. Il y a quand même quelque chose dans la consigne. Si on revient sur la consigne. Oui. Qui est ambigu et qui, quand même, pour moi, hein, mais c'est la même chose, je n'ai pas assisté. Et puis, c'est un travail qui a été mené avec ma collègue Gaëlle Marion. Mais dans la consigne, il y a quand même cette idée d'aller de ville en ville.
Ah, d'accord.
Et donc, ce qui fait que ça induit aussi, quand même, des sauts de puce et le fait que certains ont essayé de lier chaque ville à une autre.
D'accord.
Ce que d'autres n'ont pas fait.
Mais comme quoi il faut bien vérifier justement les consignes qui ont été données.
Bon, ça, là, on a la consigne. C'est vrai que c'est très important d'avoir la consigne.
Alors, dans ces cartes, il y a des éléments intéressants quand on regarde. Alors, c'est vrai que celle qui a été refusée, là, la carte A, est intéressante, mais aussi on montre très bien les limites de l'exercice. Quand on voit tous ces traits qui vont sur le nord de la Finlande et qui confondent la ville avec un lac, ça c'est un problème. Mais surtout, sur tous les quatre cartes, il est intéressant de voir et de poser pour la problématique des limites de l'Europe. On s'aperçoit des angles morts, en particulier la Scandinavie est toujours absente dans les quatre cartes. Les îles britanniques restent un isolat, hein, à peine marqué, et surtout on voit déjà un dépassement de l'Europe traditionnelle et politique, puisque un certain nombre d'élèves ont dessiné des traits sur Istanbul et sur Ankara. Donc on peut quand même aussi s'interroger aussi sur la perception qu'ont les élèves sur le concept d'Europe.
Oui, donc puisque j'ai le micro, je prends la parole. Quelques remarques. D'abord, je salue la pertinence du point de départ, hein, c'est-à-dire on met les élèves en situation, on leur demande des choses concrètes, on leur signale l'existence, la coexistence de plusieurs systèmes de transport ou modes de transport possibles, on leur demande de trouver des itinéraires, bien sûr. Je salue aussi la construction de la notion d'axe plurimodal, ce qui n'est pas facile. J'ai conduit quelques petites expériences en classe, et dans une région où c'est particulièrement facile, avec l'Alsace et son orientation nord-sud, donc, mais ce n'est pas facile. C'est déjà un niveau d'abstraction, j'irais presque de modélisation, hein, redoutable pour des élèves de cycle 3. Néanmoins, là où nous en sommes avec ces documents, il ne me paraît pas qu'une séquence d'enseignement soit terminée, puisque on est dans une phase, je dirais, de tâtonnement où les élèves passent de la notion d'axe de transport, on va dire, hein, à la notion de réseau. C'est une carte où l'on s'essaye, hein, c'est une carte où l'on tâtonne. Mais il manque une étape suivante, qui est la confrontation, je dirais, de ces cartes que l'on, où on imagine des déplacements, qui ne sont pas hiérarchisés, bien sûr, avec les cartes actuelles des réseaux, que là, les élèves ne peuvent pas inventer.
Tout à fait.
Alors, est-ce que...
Là, je peux répondre
à... Est-ce que cette étape va arriver? Et enfin, est-ce qu'on va en arriver à justement une phase de structuration où les élèves seront certes en situation de lecteurs de cartes, mm-hmm. mais ils seront d'autant plus des lecteurs actifs qu'ils auront bricolé, voilà. je dirais, des cartes un peu au hasard. Hein, de, voilà. Donc c'est la fin, c'est arriver à la structuration et arriver à des élèves bons lecteurs de cartes, du réseau, des réseaux aériens, terrestres, etc., et des réseaux hiérarchisés.
Oui, alors, voilà. oui, justement, ça c'est vraiment la phase de tout à fait. Hein, c'est la phase de tâtonnement qui est présentée et je pense que vous avez raison de dire que c'est aussi cette phase de tâtonnement qui va donner une lecture active aussi des cartes. C'est-à-dire que à partir de ce moment où ils ont tâtonné et où on peut très bien hein, discuter de la pertinence, de la consigne, de bon, moi la même chose, je suis historienne, donc je me replie derrière cela. Mais bon, je vais donner un exemple qui est qu'on a travaillé, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les collègues de sciences. J'ai un collègue de sciences qui a essayé de faire faire du brouillard dans la classe de Daniel Badia. Bon, c'est évident que bon, certains élèves ont cru en réaliser. Hein. Bon, évidemment, ils n'ont pas réalisé de brouillard, mais en même temps, ils ont créé des, ils ont essayé de mettre en place des systèmes qui leur permettaient d'eux, et donc ça a dévoilé beaucoup de leur représentation. Je crois que c'est à la fois ce temps de tâtonnement. Il est d'une part création de cartes, on voit des choses, mais on voit aussi, on entend. Ce que les élèves, la façon dont ils conçoivent, c'est aussi ces moments-là. Donc c'est pour ça hein, qu'on les a présentés. Mais en même temps, la suite, hein, ce qu'on n'a pas montré, c'est justement la suite. Voilà. Donc, bon, il y a ce classement, on en a parlé. Il y a aussi toutes les remarques, justement, que les élèves vont faire. Sur est-ce qu'on peut passer sous la Manche, est-ce qu'on peut traverser les Alpes quel problème ça pose, et puis le recours à aux expériences personnelles des élèves.
Oui, le cas du tunnel.
Voilà, certains disent, moi je suis passé sous la Manche, moi sous le tunnel du Fréjus, etc.
C'est ce qui est redondant dans la recension que nous a faite, que nous ont faites les deux collègues, c'est l'obsession des obstacles naturels. Mm-hmm. Est-ce que l'on peut traverser la Manche, la mer Noire, etc., etc. Et la catégorie terre-mer étant essentielle dans leur catégorisation. Donc c'est, hein, voilà. D'où les limites de l'Europe, bon, pour aller voir après, c'est pas ce qu'on croit. Sauf s'il y a une expérience, comme l'a été dit hier, personnelle d'un élève qui vient de Géorgie ou qui dont les parents viennent de Pologne et qui là se disent en Pologne on est déjà européen ou pas. Là, c'est vraiment dans cet exercice-là, c'est peut-être l'effet exercice hein, qui dissuade de se poser des problèmes d'identité, d'européanité, etc., etc. C'est cette obsession comment passer. Tout simplement, hein, la consigne au pied de la lettre. Comment passer? Comment se déplacer? Enfin, c'est dans ce que...
C'est une interrogation qui, quand je regarde effectivement le problème que pose la relation entre la consigne et le fonds de cartes fourni. Parce que si la consigne, c'est se déplacer, si effectivement la question de l'obstacle naturel et en même temps des voies naturelles qui peuvent favoriser effectivement le déplacement me paraissent essentielles, en tout cas au travail des élèves. En revanche, fournir un fonds de cartes sur lequel l'élément dominant sont les frontières étatiques, pose effectivement une difficulté de lisibilité, je suppose, pour les élèves. Et je prendrai l'exemple, moi, me frappe, qui est celui de l'axe danubien. Hein, l'axe danubien, il est illisible, il ne peut pas être perçu par l'élève. Pourquoi ? Parce que l'axe danubien, c'est aussi, effectivement, c'est d'abord des frontières étatiques, et que du coup, c'est les frontières étatiques qui dominent sur la carte et qui empêchent, je dirais, cette réalisation et la réalisation de la consigne. En tant que tel. Et d'ailleurs, je suis frappé, par exemple, sur le cadre du delta du Danube et de la Roumanie. Je ne comprends pas, effectivement, je n'arrive pas à comprendre le fond de carte.
Alors là, on va revenir aussi à la question de... Alors, il y a deux choses. Pour les États, moi, je pense que déjà, si Sandrine était là, elle dirait que c'est la carte qui lui a paru la plus adaptée, qu'elle a utilisée, que celle qu'elle a trouvée, et que, probablement, il n'y a pas forcément eu un choix... complètement réfléchi, hein, de la hiérarchie des villes. Autre chose, c'est que, par exemple, les États, je pense que ça permet aux élèves de reconnaître. On a vu aussi combien, quand on change de carte, mais ça a été vu hier avec le bassin hydrographique, combien, à un moment donné, ils savent même plus, ils ont du mal à reconnaître ce qu'ils connaissent un petit peu. Alors, voilà. Alors, autre chose que je voulais souligner par rapport à cette séance, c'est que c'est aussi toute la difficulté du maître polyvalent. C'est-à-dire que, alors je vais repréciser, mais très vite, hein, la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire que, entre Gaël et Sandrine, il y a eu une sorte de déroulé, de progression, où elles ont parlé de, des séances suivantes, on va faire ça à la suite, mais Sandrine s'est appropriée les choses et c'est elle qui a créé la consigne, c'est elle qui a trouvé ses documents et qui a mis en place une situation qui est une situation comme on pourrait en mettre en place en premier degré. Donc c'est vrai que il y a ça aussi, hein, et moi ça me paraît important de le repréciser, et par contre, faire un travail comme celui-là en école élémentaire, il me semble assez rare. Voilà. Et donc après, y a une appropriation par quelqu'un qui est polyvalent, voilà, et donc c'est évident qu'on va pouvoir discuter, hein, beaucoup des choix aussi. En conclusion, oui, je pense que c'est une situation qui a, je pense, d'abord qui nous a beaucoup fait changer, et d'autre part, qui nous a fait aussi réfléchir à nos positionnements chacun en équipe, c'est-à-dire comment on travaille, qu'est-ce qui est dévolu aux élèves, qu'est-ce qui est dévolu à l'enseignant qui a la classe. Qu'est-ce qui est dévolu à celui qui éventuellement est historien ou géographe, et comment aussi d'une équipe à l'autre, parce qu'on en discute entre nous, on se critique, pourquoi tu as fait ça, etc. Et ensuite on revient, mais toujours avec l'idée que ce qui a été fait, c'est au fond, c'est une situation, et c'est pour ça que c'est vrai, on est plutôt dans un travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi d'entrée de jeu, mais on est dans un travail qui est dans les deux sens, c'est-à-dire on prévoit, on anticipe, et ensuite, il y a beaucoup de travail a posteriori, et du travail d'analyse croisée entre nous, mais aussi grâce à Jackie et Nicole, qui revoient ça de l'extérieur, et ça, c'est aussi pour nous extrêmement important.
Je me permets, ne dévalorisez pas le travail qui a été fait par l'équipe.
C'est absolument pas.
Pas du tout. Non, c'est pas ce que vous dites. Oui. Mais ne le dévalorisons pas, parce que je suis en train de penser que si en quatrième, on faisait ce travail pour étudier les réseaux de communication en Europe et la structuration du territoire, si on avait le temps, parce qu'on ne prend pas ce temps-là, nos élèves comprendraient beaucoup mieux les questions de réseau et d'accès de communication et de structuration du territoire. Hein. Là, il y a une activité d'élèves qui peu à peu s'approprie un certain nombre de liaisons et en rapport avec un vécu sous-jacent, fantasmé peut-être ou pas, mais je me déplace de temps à temps, puis je fais ci, puis je passe pas la mer parce que c'est autre chose, et puis etc. Si on faisait ce travail de structuration de l'appropriation de la conception des liaisons, des trajets en Europe en quatrième, ça passerait peut-être beaucoup mieux. Or, en quatrième, on fait ça généralement en une heure et d'une façon un peu impositive à partir d'un réseau tout fait.
Oui, d'ailleurs, j'ajouterais juste un détail, c'est que ce qui me paraissait intéressant, c'est le passage de ces exercices sous forme de puzzle à cette nouvelle démarche que la collègue, si je me souviens bien, souhaite maintenant transférer à l'étude de la France. C'est-à-dire que, du coup, dans la classe, il faut voir qu'une sorte de méthode... Oui, mais enfin, l'idée a circulé dans le groupe.
On va faire les deux, oui.
Voilà.
Oui.
Et ce qui veut dire que ça devient une sorte de méthodologie, finalement, que les élèves finissent par s'approprier aussi, au-delà de l'exercice lui-même. Donc, c'est toute une posture qui se construit.
Oui, enfin, moi, je voudrais préciser quand même que c'est toutes les pratiques qu'on a vues faites par l'équipe d'Amiens, que ce soit Beauvais ou Laon, ne sont pas des pratiques fréquentes en école élémentaire. Hein, au niveau du cycle 3. Et je rebondis sur ce que disait Gérard Gony, c'est qu'effectivement, à l'école élémentaire, on aurait le temps d'appréhender des notions et des concepts géographiques de cette façon-là. Et on bloque systématiquement sur un problème qui est le problème de la maîtrise par des maîtres polyvalents de concepts géographiques qui sont des concepts géographiques trop, enfin, qu'ils ne connaissent pas, et qui, c'est compréhensible d'ailleurs qu'ils ne le connaissent pas. Donc on se retrouve toujours coincé avec cet éternel problème de la formation initiale et la formation continue. Je dois dire que la géographie au niveau de l'école primaire, moi j'ai encore, il y a deux jours, un groupe de stagiaires de PE2 qui m'ont dit « Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment faire de la géographie intéressante pour les élèves ?» Parce que nous, la géographie, on n'y arrive pas. La géographie, il y a trois matières qui nous posent problème à l'école élémentaire, c'est la géographie, la géométrie et la grammaire, les fameux 3G. Oui. Oui, non, mais voilà. C'est pas la première fois que je l'entends. Hein, je dois dire que se retrouver, enfin essayer de travailler, de diffuser des expériences de ce type-là, les utiliser, comme vous disiez hier, en formation de formateurs, moi, ça me paraît une façon de faire avancer les choses à l'école élémentaire. Voilà.